une question, justement, on s'approche doucement de la partie juridique. Donc c'est Cynthia qui va nous parler de l'avatar et du métaverse. Et donc, Juliette Sénéchal est la jeune prise de thèse de Cynthia. Donc, tu as la parole.
Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir conviée à participer. Comme mentionné, du coup, je suis doctorante en troisième année de thèse. Mon sujet de thèse porte sur la nature juridique de l'avatar conçu sur la base des données personnelles d'une personne physique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques enjeux juridiques, sachant que l'enjeu du droit en général reste quand même la sécurité et l'encadrement. Donc là, on va rentrer plus en détail sur les différentes applications possibles dans l'encadrement. Si, ça va bien marcher, sinon, c'est nous en règle. Ça va pas marcher. Ouais, ça sera la flèche. Pour cette journée centrée quand même sur la création, j'ai privilégié de prendre le rapport de la commission sur le métavers qui a été rendu il y a moins d'un an pour essayer de vous montrer un petit peu déjà les consensus juridiques qui ont été apportés, les constats sur les points davantage déterminés, les éventuelles tensions et pour finir la présentation sur des suggestions et des pistes de recherche et d'amélioration sur lesquelles on a encore peu d'éclairage. Pour commencer, on a la question centrale qui est qu'est-ce que le métavers ? On avait déjà une définition rendue par le gouvernement en 2022 qui était qu'un métavers est un service en ligne donnant accès à des simulations d'espaces 3D en temps réel, partagées et persistantes, dans lesquelles on peut vivre ensemble des expériences immersives. On remarque alors, avec le report rendu en 2024 par le CSPLA, que la définition est légèrement différente. On se rend compte que la notion d'espace 3D a été abandonnée et on s'intéresse davantage à la question de la vie virtuelle et la question aussi de l'avatar qui n'était pas mentionnée dans la définition de 2022. Donc là, c'est voilà les trois points. On a aussi, par exemple, des définitions d'un entrepreneur dans le secteur des ICC qui définit, lui, le métavers comme un réseau global de mondes virtuels en 3D, interopérables en temps réel, accessible de manière synchrone et persistante par un nombre illimité d'utilisateurs, avec un sentiment individuel de présence et une continuité des données, notamment juridiques. Sa volonté, c'est donc un basculement de la vie hors ligne vers la vie en ligne, notamment sur les aspects économiques et éventuellement de la création du coup, pour notre journée. La notion de 3D donc, a été retirée au fur et à mesure des recherches, pour diverses raisons, et notamment celle-ci, c'est qu'on se rend compte qu'un métavers n'a pas besoin d'être en 3D pour être immersif. Et ce graphique qui existe depuis un petit moment déjà montre qu'il y a, par exemple, Roblox, qui est le plus utilisé, mais aussi Minecraft et Fortnite, sont des services qui n'ont pas besoin d'interaction en 3D pour fonctionner. En France, on a The Sandbox, qui fonctionne pas mal. Et sur les technologies qui ont besoin d'un casque, même dans ces contextes-là, on n'a pas nécessairement besoin d'accéder avec un casque pour interagir. C'est-à-dire que c'est une option des environnements. On peut être en 3D, mais ce n'est pas nécessaire pour pouvoir rejoindre l'interaction, en fait. Donc c'est pour ça que je pense que le 3D a été évincé de la définition, pour avoir une vue vraiment d'ensemble sur ce qu'est un métavers. Ensuite, on a la question de l'avatar. La question de l'avatar est quand même assez centrale de mon point de vue. Bon, ça reste mon sujet de thèse. Donc. Pourquoi ? Parce que finalement, comme le montre le Conseil d'État en 2022, l'avatar recentre finalement la question sur comment on protège l'utilisateur qui interagit. C'est bien d'avoir la définition de l'environnement, c'est bien de comprendre comment il fonctionne, mais l'utilisateur dans tout ça... comment on va pouvoir le protéger, comment il va pouvoir interagir, et c'est des enjeux qu'on a encore un peu du mal à percevoir, et en termes de contrats, en termes de plein d'aspects différents de la vie juridique, en fait, on a cette représentation, cet intermédiaire, où on n'arrive pas encore à le situer exactement, mais qui reste important à pouvoir situer dans tout ce milieu-là. Et enfin, la question de la vie virtuelle. Madame Charbonnet, dans cet article de 2008 concernant l'affaire Second Life, pour rappel, l'affaire Second Life, c'est... Second Life, c'est considéré comme un des premiers métavers qui a émergé et dans lequel il y a eu des infractions, pas caractérisées pour le moment, parce que en fait, on a des vrais problèmes d'application du réel au virtuel, du point de vue des définitions juridiques. À l'époque, il y avait eu une personne qui avait porté plainte pour viol dans Second Life. Ce qu'il y a, c'est que le viol est une infraction pénale qui a une définition propre avec des éléments à caractériser pour pouvoir retenir l'infraction et pour pouvoir condamner la personne. Ce qu'il y a, c'est que l'acte de pénétration doit être quelque chose de très concret dans la notion de droit pénal à l'heure actuelle. Et pour autant, on se rend compte que le traumatisme de la victime est quand même réel d'une certaine manière, parce qu'elle a senti le besoin d'aller porter plainte, elle s'est sentie juste atteinte finalement dans son intégrité, dans son intimité, et on ne peut pas juste laisser cet élément en suspens dans la mesure où ça peut nuire réellement à autrui. Et il y a aussi toute la question de l'exposition des enfants à des contenus pornographiques en ligne, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de questionnement sur ce qu'est la vie virtuelle finalement. Donc on a quand même des pistes de réponse. Sous l'angle de la propriété intellectuelle, le rapport explique déjà que le métavers et ses éléments sont des éléments multimédia qui répondent d'une certaine protection. Donc c'est-à-dire qu'on va, isoler chaque élément qui compose le métavers et chacun indépendamment va avoir une protection. Il n'est pas appréhendé dans son tout, il est appréhendé par chaque élément pour pouvoir après rendre une protection globale de la chose, mais dans le détail. Il y a la question du droit d'exploitation aussi qui pose certains problèmes. Le droit d'exploitation repose sur deux piliers, la reproduction de l'œuvre et la représentation, c'est-à-dire la communication publique. Ça, jusqu'à présent, c'est pas trop un problème, on arrive à comprendre la communication publique, qu'elle soit de manière dématérialisée ou matérialisée, on comprend quand l'œuvre est publiée, surtout en matière de jeux vidéo par exemple. Par contre, la fixation de l'œuvre, ce droit-là, on ne sait pas encore s'il est complètement épuisé. On le sait grâce à un arrêt de la Cour de cassation 2024. Lorsqu'on met en ligne, par exemple, un jeu vidéo, vous êtes peut-être familier avec la plateforme Steam. C'est une plateforme sur laquelle on peut acheter des jeux vidéo, mais de manière dématérialisée. Ce qu'il y a, c'est que normalement, quand vous achetez votre CD de jeu vidéo, vous pouvez le revendre derrière. Le droit de reproduction a été épuisé. Donc vous êtes libre de pouvoir le revendre en votre nom propre. En dématérialisé, la Cour de cassation a tranché que la fixation de l'œuvre n'est pas terminée. Donc du coup, on ne peut pas revendre un jeu vidéo acheté sur Steam. Donc c'est une pratique qui se fait un peu, mais c'est une pratique illégale du coup. Et enfin, on a un dernier aspect qui est déjà réglementé. Vous avez sûrement déjà entendu parler de concerts qui ont pu avoir lieu sur Fortnite, par exemple. Et il faut se rassurer sur les artistes qui évoluent sur ces milieux-là, puisque leurs droits en tant qu'artistes-interprètes sont bien protégés dans les métavers, comme ils le seraient dans un film ou une pièce de théâtre. Ou en concert, enfin, voilà. On a aussi un constat qui s'est présenté sous l'angle du droit du numérique dans le rapport. C'est l'applicabilité de l'article 17 de la directive Danium qui protège en fait les contenus numériques qu'on poste en ligne auprès des fournisseurs. La commission, vu qu'elle opte pour le prisme du contenu numérique, ça permet de protéger davantage les utilisations faites des œuvres qui sont créées ou téléversées dans le métavers. Parce qu'il y a deux options, soit vous pouvez créer directement à l'intérieur, soit vous pouvez uploader, du coup téléverser des œuvres depuis une base de données propre, ou alors une copie d'une œuvre déjà existante. Et le fait que la commission opte pour l'applicabilité de la directive Danium, ça a permis une approche vraiment holistique du contenu en ligne, donc on évite absolument toute dérive parce qu'on aurait pu ne pas comprendre telle disposition, vu que le contenu numérique est un concept qui englobe à la fois les œuvres de l'esprit, les créations, comme on les appelle plus communément, mais aussi d'autres petits éléments qui ne sont pas nécessairement de la création. Et donc voilà, c'est ce que ça permet d'éviter que le droit soit ignoré juste simplement par les plateformes. Sur les points de consensus, on a différents points sur lesquels la commission insiste pour dire que c'est en fait des points clés qui vont permettre le bon fonctionnement global des mondes métaversiques. Il faut du coup s'assurer que l'interopérabilité soit pleine entre à la fois le stockage de données, le cryptage des logiciels et aussi des terminaux utilisés. Par exemple, ça a été évoqué plus tôt dans la matinée, il faut que tel casque de VR puisse fonctionner avec tel métavers ou que telle donnée puisse être décodée par tel autre métavers. Sinon, ça peut créer des problèmes en termes de... des problèmes de verrouillage de certains modèles et d'exclusivité qui n'est pas forcément souhaitable pour un environnement qui se veut juste le plus populaire possible, en fait. On a aussi le souhait de la portabilité des œuvres qui fait écho finalement à la portabilité des données personnelles. On veut pouvoir transférer une œuvre d'un métavers à un autre sans gros risque. Et enfin, il faut à tout prix qu'on arrive à faire respecter ces dispositions par les prestataires de services, parce qu'il y a bon nombre de ces éléments que je vous évoquais juste avant sur les constats, en fait, qui sont d'ordre public et pas toujours facile à s'assurer du bon respect et de la bonne mise en œuvre. Également, le rapport soulève forcément des points où on n'est pas nécessairement encore fixé. Parce que si c'était si simple, on aurait déjà tout réglementé. On a d'abord la question du respect du droit moral. En effet, le droit moral a quatre piliers, permet quatre droits. C'est la divulgation de l'œuvre, la paternité de l'œuvre, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre et le droit de retrait de l'œuvre. Ces quatre éléments du droit moral ont des caractéristiques. Ils sont inaliénables, imprescriptibles et perpétuels. Ces éléments-là, on se demande si c'est vraiment faisable dans la mesure où l'utilisateur, par exemple, quand il est créateur ou quand il téléverse des créations sur un métavers, n'a pas vraiment la maîtrise, finalement, de ce qui va arriver des données derrière et n'a pas vraiment la possibilité de s'assurer, par exemple, que son œuvre va rester intègre, de pouvoir la retirer complètement, ou de s'assurer que sa paternité soit reconnue en tout lieu. Et ça pose un vrai problème de savoir est-ce que le droit moral, on pourra vraiment effectivement l'appliquer de manière aussi pleine que dans la vie réelle, vu qu'il y a beaucoup d'obstacles finalement à ces techniques, à la fois en raison de la multitude de lieux qui existent en ligne. C'est-à-dire que quand vous avez votre peinture dans un musée, il n'y en a qu'une. Vous savez où elle est, il y a votre nom dessus, et à tout moment, vous pouvez la retirer. Là, on peut éventuellement faire des copies à l'infini. On ne peut pas forcément la situer et la retrouver, et vous avez vraiment des grosses difficultés à savoir si ce droit-là pourrait être respecté.
Le droit dont vous parlez, là, c'est le droit où ? C'est en Europe, pas en...
C'est le droit français. Et la directive Danube, c'est droit européen. Donc les deux prismes, c'est droit franco-européen.
D'accord, merci.
C'est en termes d'échelle, parce que oui, aux US, ils sont sur un autre système, et c'est le système de... On l'espère. C'est un autre système. Non, il y a la question aussi de la licence légale, où finalement... On se demande s'il faut octroyer aux prestataires des services une licence légale la difficulté qu'on retrouve dans le droit moral, est-ce qu'elle ne peut pas être substituée par une licence légale, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt légitime et une raison d'intérêt général à octroyer à des prestataires privé, comme on a pu le faire déjà maintenant, un droit absolu sur les œuvres qu'on crée. C'est vraiment une question encore en suspens, on ne sait pas trop est-ce que c'est éthique, pas éthique, finalement. C'est là où on met la balance de... Le droit, c'est quand c'est acté, mais l'éthique, c'est quand on est encore en train de décider sur qu'est-ce qu'on va faire du droit. Et enfin, il y a la question du pouvoir des plateformes. Est-ce qu'on pose d'office ou non une cession de droit dans les CGU, ou alors est-ce qu'il faut des contrats spécifiques sur les œuvres une fois qu'on les téléverse dans un métavers? Il y a le pour et le contre. Si on le met dans le CGU, ça permet de fluidifier le transfert. Si on fait un contrat spécial, ça permet à l'utilisateur d'avoir un contrôle davantage finalement sur les œuvres dont il est le propriétaire. Il y a également des points de vigilance soulevés par le rapport. Ça va sûrement se faire à plusieurs niveaux. On va devoir, sur l'échelle nationale et après sur l'échelle européenne, je pense, faire en sorte de communiquer les bonnes pratiques auprès des utilisateurs sur qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire dans un métavers pour s'assurer de sa sécurité. Il y a deux niveaux, à mon sens, de prévention, finalement, et d'information. Il y a la CNIL, avec laquelle je pense que vous êtes familière, et pour toutes les questions de droit des données personnelles. Et il y a, je pense, le gouvernement aura une responsabilité au niveau des écoles de commencer à former les jeunes à comment on peut utiliser vraiment le numérique, qui devrait être beaucoup plus poussé que ce qui est fait à l'heure actuelle en termes de juste de protection et de sécurisation des données, des interactions qu'ils ont en ligne, en fait. Il y a, sur le plan de la propriété intellectuelle, un enjeu global, du coup, de protéger la création. Est-ce que il va falloir collecter de manière permanente toutes les données qui sont mises en ligne sur un métavers pour pouvoir retracer en cas de contrefaçon d'une œuvre? Ça permet une forme de pouvoir apporter la preuve et après de pouvoir revendiquer ses droits. Mais d'un autre côté, le RGPD n'autorise que la collecte de données par intérêt légitime. Et donc on est censé cibler, on n'est pas censé collecter de manière permanente les données personnelles des utilisateurs. Et là, on se pose la question de est-ce qu'il faut limiter quand même et cibler la légitimité, ou est-ce qu'il faut davantage privilégier finalement la protection des œuvres et l'apport d'une preuve en cas d'infraction. C'est tout l'enjeu de vie privée. Est-ce qu'on protège encore un petit peu la vie privée des utilisateurs, ou est-ce qu'on accepte finalement qu'on a besoin de toutes les datas en ligne pour pouvoir s'assurer une protection juridique derrière? Et un point de vigilance qui est assez évident, c'est qu'il y a un rapport de force inégal entre l'utilisateur et le prestataire de service, puisque l'utilisateur a nécessairement besoin du prestataire de service pour pouvoir diffuser ses œuvres dans certains milieux, par exemple. Peut-être que dans quelques années, ça sera l'accoutumée d'avoir des salles de classe en virtuel, et du coup, il faudra créer dans ces salles de classe virtuelles. Du coup, ça sera une obligation, et d'un autre côté, le prestataire de service lui récolte autant de données qu'il veut, avec finalement un peu les pleins pouvoirs sur ce qu'il fait de tout ça derrière. Bon, concernant le rapport, pour l'analyse d'ensemble, il dresse une première vue d'une protection juridique de l'utilisateur dans les mondes métaversiques. D'un autre côté, il est davantage centré sur la propriété intellectuelle. En effet, il a été adopté par le CSPLA. Donc, on peut déjà dire que la propriété intellectuelle est indispensable pour l'encadrement du métavers et des mondes métaversiques, mais à elle seule, la propriété intellectuelle est insuffisante pour appréhender l'ensemble des enjeux juridiques des métavers et des avatars. Cependant, il pose quand même déjà quelques principes utiles d'applicabilité de règles juridiques et une définition assez intéressante et qui rejoint à peu près celle qui avait été présentée, je pense, en début de la journée là. on commence à quand même avoir un certain consensus sur ce qu'est le métavers dans le milieu de la recherche. Et ça, c'est quand même un énorme progrès sur, sur aussi bah, le, la, la... Excusez-moi, je cherche un peu mes mots. Je vais y arriver. Le mélange des disciplines pour pouvoir réglementer le domaine. Voilà. C'est quand l'interdisciplinarité, voilà. Avoir une définition commune, c'est utile pour l'interdisciplinarité. Donc finalement, les axes complémentaires qui restent à creuser à l'heure actuelle, on a d'abord le droit du numérique. Le rapport évoque des difficultés pour le DSA et le DMA à s'appliquer pleinement, vu que c'est des réglementations qui encadrent les plateformes et ce qu'elles font des usages des données, ce qu'elles font de manière globale. Mais on a des quotas en termes de nombre d'utilisateurs, on a des quotas en termes de capital qui met un frein en fonction de l'ampleur finalement de chaque métavers, et on n'a pas une réglementation harmonisée sur le droit du numérique pour le moment. On a aussi la question du droit des données personnelles qui est un peu occultée pour le moment. Pour continuer, on a le droit de la consommation qui a, je pense, à son mot à dire concernant les normes de sécurité pour le métavers, parce que maintenant, le droit de la consommation, sur le niveau européen et français, encadre à la fois les produits et les services. Donc, savoir est-ce que c'est sécurisant d'interagir dans un métavers, et si oui, dans quelles conditions et quels recours sont possibles s'il y a un manque de sécurité. Et enfin, on a quand même une question centrale sur les conditions générales d'utilisation. Le droit des contrats, c'est tout un pan aussi du droit. Et comme on a un rapport contractuel déséquilibré, on peut laisser penser que dans les CGU, de manière globale en ce moment, il y a quand même beaucoup de clauses abusives. Et il faut vraiment s'intéresser de manière détaillée pour savoir qu'est-ce qui peut être considéré comme abusif ou non dans les différents services en ligne. Voilà, ben je vous remercie pour votre attention et je vous écoute pour les questions.
Il y a un peu de temps pour les questions.
S'il y a du temps, oui.
Moi j'en ai une aussi. Oui. Bon, ok, on est en droit français globalement, etc. On est dans un univers virtuel où il y a des personnes humaines derrière leur casque. Ouais. Et si par exemple ils s'insultent, insultes à caractère raciste, bon, par exemple, est-ce que là, actuellement déjà, on peut considérer, on a beau être dans un univers virtuel, pas vraiment réel, est-ce que dans cet univers-là, deux personnes se parlent et s'insultent, il y a une équipe en plainte, est-ce que c'est géré ça déjà?
Alors, si on peut rapporter la preuve de l'interaction, oui.
Ouais. Comme si on était dans la vie de tous.
Voilà, parce que le droit pénal a fait des aménagements. On a beaucoup d'infractions, de cyber-infractions maintenant qui existent, mais c'est des aménagements parce que sinon, ce n'était pas possible de l'encadrer.
Là, je vais en arriver, c'est que dans les univers qui vont se passer maintenant, vu la possibilité d'IA et en parallèle, on pourra avoir des personnages non-joueurs, par exemple des IA, qui pourront vous insulter.
Tout à fait.
Parce que c'est sympa d'être dans un film qui dit ça, des gros machins, c'est l'histoire. Comment est-ce que dans ce cas-là on peut attaquer l'IA, est-ce qu'on peut attaquer l'IA comme une personne s'il y a des caractères de ce genre-là, sachant que les personnes sont certainement prévues d'entrer dans un jeu de ce genre-là par exemple?
Alors, il y aura des interventions sur l'IA. En fait, ce qui est la difficulté de l'IA en ce moment, c'est savoir qui est responsable finalement. Est-ce que c'est l'IA ou est-ce que c'est le développeur de l'IA, enfin, surtout avec l'IA générative, parce que elle fait un peu ce qu'elle veut au bout d'un moment. Il y a eu encore des exemples là récents, j'ai vu d'IA qu'on a averti qu'on allait les éteindre et elles se sont uploadées sur d'autres systèmes pour ne pas être désinstallées.
Attention au buzz et la réalité des choses.
Même en termes d'interaction entre IA, j'ai déjà vu des conversations cryptées du coup.
Oui, ouais. Aussi.
Donc l'IA, surtout l'IA générative, on a beaucoup beaucoup de mal à l'appréhender. On a l'IACT qui est arrivé l'année passée, il me semble, qui a été le fruit de longues années de réflexion, et pour au final être un peu au pied du mur, parce que la technologie se développe beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait déjà anticipé.
Les choix politiques des grands groupes qui maîtrisent les IA sont pas les autres bien plus.
C'est ça. Et on va dire que la question est en cours d'être réglé. Mais on n'a pas pour l'instant de responsable. Et c'est aussi ça le problème en infraction pénale, c'est que il faut celui qui fait l'infraction. Et si on n'arrive pas à déterminer lequel c'est, on ne peut pas retenir l'infraction juste.
Si je peux me permettre de compléter un tout petit peu, donc vous avez le règlement sur l'IA, effectivement, qui crée des obligations à la charge des développeurs et des déployeurs professionnels des IA. Donc là, on est plutôt dans une logique de responsabilité administrative avec des amendes si on ne respecte pas. On est pendant des obligations pour prévenir les risques d'atteinte à la santé, à la sécurité. Donc en fait, sous cette forme-là, déjà, on peut saisir si on forme des IA à insulter les gens, est-ce qu'il n'y a pas des risques d'atteinte à la santé, à la sécurité, aux droits fondamentaux de l'humain, quand bien même il y aurait un accord à rentrer dans le jeu.
Voilà, je suis un disclaimer, on ne permettrait pas de résoudre ça, parce qu'il peut y avoir l'intérêt, justement, dans un monde virtuel. Donc on a envie de rentrer dans un monde où on peut dépasser même nos conventions morales. Ça peut être
entendable. Si, un exemple, il y a un adolescent, c'était dans le New York Times il n'y a pas très longtemps, qui échangeait avec une IA qui s'est suicidé parce qu'il a été dans les points psychologiques, il y a l'IA suicidons ensemble, il y a dit oui, suicidons ensemble, l'IA ne meurt pas, bien sûr, et le petit jeune homme se suicide. Donc en fait, c'est-à-dire que là, le disclaimer, il ne vaut pas, en fait, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Quoi. Quand bien même il est dans un monde virtuel, qu'il est en train de parler avec une héroïne de Game of Thrones, ça ne marche pas. Donc en fait, en plus de l'IAC, on a un deuxième texte qui arrive, qui va rentrer en application en 2026, qui est la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux. L'IA est un produit. Donc, si on n'arrive pas à démontrer qu'il y a un défaut du produit, ça engage la responsabilité à nouveau des fabricants de l'IA, en fait. Donc on est dans une logique, on attrape les fabricants. Mais encore faut-il démontrer, ça n'est plus les enjeux de preuve. Mais l'IA n'est pas une personne, et c'est pas elle qu'on vient chercher.
Bien sûr qu'on cherche les fabricants.
Après, il y a aussi la limite du contrat passé, parce que si on intègre un métavers où on sait qu'on va être insulté, on intègre de son plein gré en sachant ça au préalable, il y a un consentement, en fait, finalement, à ce qui va se produire.
J'ai une question concernant quand la robotique est apparue, par exemple, il y a quelques années, il y a eu assez rapidement en fait la nécessité d'établir des lois. On appelle les trois lois fondamentales de la robotique, dans lesquelles, par exemple, la première loi c'est on ne doit pas porter atteinte à un humain ou on doit intervenir si un humain est en danger. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait ressembler à ça dans les lois virtuelles avec une sorte de réflexion autour de lois fondamentales?
En fait, ce qu'il y a, c'est que les mondes virtuels se veulent tellement vraisemblables et que la vie virtuelle ne soit pas forcément différenciée de la vie réelle, que inconsciemment, quand ça s'est développé, on a, je pense, acquis que tout allait se faire pareil qu'en ligne, sauf qu'il y a des freins, finalement, terminologiques aux lois qu'on a déjà adoptées. C'était, comme la volonté, c'est que tout se passe pareil.
Ça, c'est pas sûr. Justement, ce que je disais, le problème, c'est qu'on peut le règle morale, les trois lois pour les faire, ça c'est vouloir singer, c'est pas ça. Comme c'est virtuel, on peut être tenté d'avoir envie d'être supralibéraliste et pouvoir vivre des choses interdites.
Il y a quand même. Dans le réel, il y a quand même derrière l'utilisateur, il y a quand même des droits fondamentaux à respecter derrière, et on peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que même
c'est tout à fait
dans l'IACT, la mise en balance de l'intérêt des droits fondamentaux et de la technologie est complètement
développée. Oui, mais ces droits fondamentaux, ça s'applique spontanément à
l'interdiction. En fait, à l'article 5 de l'IACT, il y a le principe d'interdiction. De la manipulation sur le seuil de conscience, interdiction de tromper l'humain, interdiction d'exploiter ses vulnérabilités. Mais par contre, il n'y a pas l'interdiction de vous tuer.
C'est super ce que tu as dit. C'est vrai que si on applique ça, si on peut singer ça, c'est top. Parce qu'alors, on interdit des pantiers de la littérature.
Alors, il y a justement des métavers. C'est-à-dire que si on regarde bien toutes les couches de métavers possibles, il y a des gens qui disent que le jumeau numérique, c'est un métavers. Il y en a d'autres qui disent qu'une simulation immersive pour former justement dans l'armée. Moi, je connais des gens qui ont demandé, est-ce que vous pouvez faire une application pour tuer vraiment quelqu'un avec un
revolver?
Et ça, c'est des applications métiers, professionnelles, défense, etc. Après, il y a l'univers, on va dire, imaginaire. Et c'est pour eux entre les deux. Donc peut-être qu'il va y avoir à définir un curseur. Et vous, où est-ce qu'on fait le curseur? Parce que de la même façon que dans une pièce de théâtre, un livre, etc., on peut aimer voilà, le film d'horreur, on peut aimer les scènes agressives, etc. Le jeu vidéo, il y a le PEGI qui existe pour le jeu vidéo. Donc jusqu'où on va pouvoir aller pour ces univers imaginaires? Et justement, par rapport au PEGI, est-ce que c'est utilisé pour le métaverse?
Pour l'instant, c'est... Par exemple, il y a déjà Minecraft et Fortnite qui étaient déjà des jeux vidéo. Donc, il y avait déjà la réglementation antérieure venue du jeu vidéo avant que ça devienne des notions plus vastes, en fait.
Peut-être qu'il faudrait rappeler ce que c'est et puis les différentes...
C'est des mesures qui permettent de protéger certaines catégories de public, en fait. Et il y a des niveaux d'âge indiqués pour s'assurer que on n'y ait pas d'atteinte à l'intégrité psychique, en fait, du joueur, vu que c'est dans le jeu, normalement.
Les jeux vidéo sont classés, déjà. Tout le monde ne peut pas accéder normalement.
Même dans les jeux vidéo, il y a des limitations. On ne peut pas faire le jeu vidéo sur le Troisième Reich et en mettant en avant, j'imagine. Dans ce cas-là, il y a
eu. Il y a des défauts de jeux avec des jeux qui sont interdits à des moins de 12 ans, etc. Alors, ça va être le moment de la pause déjeuner. Merci encore.